le macronisme. Ce côté un peu jeune premier, échappé du peloton, c'était pas mal ça. Ah, et puis un sacré bordel, ouais. Peut-être qu'il aurait peut-être pas dû être réélu.
Bonjour à toutes et à tous, le week-end est là, portée de main, et sa rampe de lancement idéale s'appelle Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, même si notre mot du jour appartient déjà pour certains au passé, puisqu'on va zoomer sur le macronisme. Qu'est-ce que le macronisme ? Ou du moins, qu'a été le macronisme ? Quel sera son héritage ? Les plus subversifs d'entre nous, qui préparent déjà leur migration vers Radio Nova, pousseront même le bouchon de l'irrévérence plus loin, en se demandant si le macronisme a jamais existé. Critique largement exagérée, car ceux qui, comme moi, ont aujourd'hui les cheveux plus sel que poivre et voient plus souvent leur urologue que leur meilleur ami, se souviennent qu'à un moment, le macronisme a existé. On se souvient même qu'il était très bruyant.
Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France, parce que c'est notre projet!
Oui, c'était son projet, il avait détruit la trompe de stage de Pierre Courat, qui était évidemment au premier rang lors de ce meeting. Car oui, évidemment, on l'imagine très bien dans l'équipe de Zoom Zoom, il y en a au moins un qui risque pas de rejoindre Nova, c'est lui. Bref, que reste-t-il en 2026 des envolées lyriques d'Emmanuel Macron ? Comment les livres d'histoire résumeront-ils le macronisme ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Denis Barranger.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Denis, vous êtes professeur de droit public à l'université Paris Panthéon Assas. Vous animez aussi la revue Ius Politicum consacrée au droit public et constitutionnel. Vous dirigez également l'Institut Michel Villet avec votre confrère Olivier Beau, avec qui vous avez publié La dissolution de la Ve République aux éditions Les Petits Matins, livre dans lequel vous revenez sur la crise politique qui s'est muée en crise de régime après la dissolution de 2024. Une décision prise par un homme, Emmanuel Macron. Pour la comprendre, vous revenez longuement dans votre livre sur ce qu'est le macronisme. Alors, qu'est-ce que le macronisme ? Le macronisme est-il constant et clair, ou bien plutôt fluctuant et flou ? Le macronisme peut-il survivre à Emmanuel Macron ? On compte sur vous, Denis, pour éclairer nos lanternes. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices, à commencer par celui qui est assez éloigné politiquement d'Emmanuel Macron, puisqu'il se situe plutôt à droite d'Alain Madelin, mais qui en revanche partage avec notre président son goût pour les trucs ringards, de même qu'Emmanuel Macron ne jure que par la bagnole, Gérard Depardieu et les expressions vintage type poudre de perlimpinpin. Quentin, lui, a seulement 35 ans. 34 ans. Encore plus jeune, c'est pire du coup, ce que je dis. A seulement 34 ans, fredonne les mêmes airs que mon papy décédé en 2018 à 95 ans.
Est-ce que t'as les yeux bleus ? Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil dans leur éclat de feu ?
C'est pas votre grand-père qu'on entend. Non,
c'est bien quand c'est lui. Et c'est ça qui est inquiétant.
Il sort d'où cet enregistrement ?
C'est un truc en off parce que je m'entends parler derrière.
Ah oui, pas ça.
En off.
Vous m'écoutez pas à ce moment-là ?
Bah non.
Je me doute.
Quentin, il vous manquera Macron ?
Non.
Il y a eu une hésitation quand même.
Peut-être juste pour en parler avec les gens dans la rue, parce que c'est passionnant de parler.
Évidemment. Les gens, j'imagine, ont plein de choses à dire sur Emmanuel Macron.
Oui. Autant vous dire que, parce que il y a Cyril Lacarrière qui est en train
les violons,
de faire les violons. Bon, évidemment, il ne va jamais dans la rue parler avec les gens.
Oh non.
Autant vous dire que la cote de popularité du président n'est pas beaucoup remontée dans la rue ces dernières semaines. Le mot macronisme donne même quelques frissons, et surtout, il est difficile à expliquer et à résumer le macronisme, ou même juste de donner une définition. On va entendre la rue s'exprimer sur le macronisme avant 16h30.
À vos côtés, Denis, une journaliste qui tape toujours juste. Mercredi, c'était même en plein dans le mille. On faisait une émission sur les secrets fascinants du cortex. Sur quoi a-t-elle fait sa chronique ? Sur Minus et cortex. Notre invité, l'éminent neurologue Richard Lévy, s'était dit que la prochaine fois, il irait plutôt sur France Culture.
Manon,
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
L'équipe de choc derrière son élection, ils étaient surnommés à l'époque les Mormons de Macron, les nouvelles stars de la communication politique, et vous allez voir que cette team a bien périclité. Je vous dérange, Quentin ?
Pas du tout.
Très bien, merci.
Quentin, écoutez, vous
savez
bien.
Je vais parler de qui ?
Vous êtes très dissipé.
J'ai cru que j'allais
Je vais parler de quoi ?
Ça a bien fait.
De l'équipe de choc. De
Macron. C'est ça, oui.
Qu'on appelait les
fanboys.
Moins 3 ou plus. Le macronisme n'est pas le seul truc en isme qui risque de prendre l'eau rapidement après le départ de son inventeur. Vers 16h30, dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte du poujadisme, du zémourisme, voire même du chevènementisme. Bref, tous ces trucs en isme auxquels on a cru, mais qui ont fait pchit. Juste avant 17h, nous aurons droit au classique bilan hebdomadaire de François Rollin, qui nous épargne jamais, pour le plus grand plaisir de notre invité qui adore François
Absolument,
Rollin.
Un grand fan.
Après 17h, vendredi oblige, on passera en mode Zoom Zoom Back, aujourd'hui direction 1993. Un film écrasé tout au box-office, Jurassic Jurassic Park. Cette année-là, Steven Spielberg relançait l'intérêt pour les dinosaures et suscitait bien des vocations. Nous verrons ça, mais d'abord, zoom donc sur ce courant politique dont certains finissent par se demander s'il s'agit vraiment d'un courant politique, le macronisme. Denis Barranger, est-ce que le macronisme est un mouvement politique profond ? Est-ce que c'est une idéologie pérenne ou finalement, ça aurait été une parenthèse ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de macronisme parce que je ne vois pas le isme en réalité. Il y a eu Macron, il y a eu l'épisode Macron dans la politique française qui est lié à un moment très particulier, l'effondrement des partis de gouvernement, le fait que Fillon s'auto-élimine un petit peu grâce au canard enchaîné, le fait que M. Hollande s'auto-élimine de lui-même grâce à son propre travail politique et au total, la politique a horreur du vide, la politique a besoin d'une espérance et d'une incarnation et à un certain moment, Macron, il est cette personne-là. Et il réussit ce job-là qui est assez remarquable.
S'il y avait un isme à donner à ça, c'est plutôt opportunisme, du coup.
Non, pas nécessairement. Je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de macronisme, parce qu'après Macron, très probablement, il n'y aura pas de suite. Quand on veut faire le monde d'après, on n'a ni héritier, ni passage de relais. C'est ce qui est en train de lui arriver. C'est ça que je veux dire.
Pour lui, pas la peine d'y consacrer une heure d'émission. Le macronisme est une aberration politique, un non-sens. Et si seulement Richard Bourgui n'avait pas eu la mauvaise idée d'offrir des costumes au seul homme politique sérieux qui était capable de redresser la France, de l'extirper de la fange socialo-communiste dans laquelle elle marinait, eh bien, on vivrait aujourd'hui dans l'ère du seul courant isme qui vaille la peine, le fillonisme. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, racontez-nous, même si vous devez vous pincer le nez, le macronisme, d'où ça sort ?
Imaginez la France au milieu des années 2010. Les socialistes sont au pouvoir, mais ils sont à la ramasse, les frondeurs ont eu raison de François Hollande. Alain Juppé se voit déjà président, mais il n'a pas vu venir la météorite de François Fillon, qui n'a pas vu venir Robert Bourgui et ses costumes, ni la justice d'ailleurs. Quant au FN, qui n'est pas encore le RN, il est en embuscade, il espère profiter du dégagisme qui opère un peu partout dans le monde. C'est dans ce vide qu'apparaît un jeune cadre dynamique. Un ministre encore inconnu du grand public 2 ans plus tôt, on le croyait proche de François Hollande, lui aussi d'ailleurs le croyait proche de lui, erreur stratégique majeure. La traîtrise originale est là, voici Emmanuel Macron et avec lui le macronisme. Objet encore difficile à cerner.
Mais à l'époque, ça ressemble à quoi ?
Le macronisme, au départ, c'est comme une start-up. Elle s'appelle En Marche. Il y a des marcheurs aussi qui font du porte-à-porte à l'américaine. Et puis ce discours, ni gauche ni droite, dépasser les clivages, qu'il dit à l'époque. Cela doit permettre à la France de devenir agile et innovante. Un discours pro-européen aussi. On s'entend lire des slides de PowerPoint, mais ça marche. Le dégagisme ne va pas profiter à l'extrême droite, mais à un obode de 39 ans. Mais la France n'est pas vraiment un incubateur, et on va vite le voir. Alors d'où ça sort le macronisme ? Bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Denis Barranger, vous dites que de son apparition en 2016 à la dissolution en 2024, la trajectoire du macronisme prend la forme d'un arc. Ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire que ça monte et ensuite que ça descend. Je vous apprends rien. Si vous voulez, la courbe de température du macronisme, c'est le nombre de députés ensemble et ensuite Renaissance. Donc c'est 307 en 2017, c'est le grand moment. Ils sont très nombreux, ils ont une majorité absolue. 245 en 2022 et 166 après la dissolution en 2024. Donc en réalité, c'est un arc.
Oui, c'est plus qu'un arc. Oui. C'est un arc cassé.
C'est une pente glissante de ski. Mais ça dit quelque chose. Et en réalité, il faut même ajouter à ça que les 166 actuels ne sont pas macronistes, parce que le parti de Gabriel Attal, c'est plus le parti de M. Macron. Donc en réalité, il a aussi dissous pas seulement le Parlement, mais son propre courant, son propre parti. Il y a quasiment plus de macronistes, en réalité.
Ouais, c'est marrant, parce que on parle beaucoup de la fin de règne de Mitterrand avec les 30 ans de sa disparition. Ça fait penser un peu à ça. C'est-à-dire qu'il est isolé, il est de plus en plus seul. Plus on approche de la fin de son deuxième mandat.
L'autre point commun, c'est qu'il a réussi à se faire réélire. Il ne faut pas oublier, après toutes les moqueries, on est là pour ça, moi le premier, mais si vous voulez, il ne faut pas oublier la grande réussite d'Emmanuel Macron. C'est un ovni politique, il était à peu près personne en 2015-2016, il devient quelqu'un, il réussit à se faire réélire, personne ne le donne gagnant, vous l'avez très bien raconté. Il gouverne, il y a des réussites dans le bilan Macron qu'il ne faut pas oublier. Si on avait proposé à François Hollande de mettre le chômage à 7,7%, il aurait été enchanté. Je vous rappelle qu'il a été, qu'il a perdu le pouvoir sur la question de l'inversion de la courbe du chômage. Donc Macron, il y a des réussites. Il y a aussi également, manifestement, une fin de règne un peu difficile.
Et justement, vous dites que vous datez la mort du macronisme le 9 juin 2024, lorsqu'Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.
Ce que je veux dire, c'est la mort du courant. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il dissout ça, il prévient personne. Personne n'est au courant, même Gabriel Attal. Aucun homme politique dans son entourage, sauf peut-être M. Darmanin, parce qu'on dit qu'il lui a glissé cette idée à l'oreille avec quelques autres. Mais au total, il dissout son propre parti. Le parti n'est pas préparé aux élections qui vont venir, parce que dissolution, ça veut dire élection législative après. personne n'est d'accord. Les gens, vous savez, on dit qu'il n'y a pas de dinde qui veut avancer la date de Noël. Il n'y a pas de député qui veut de la dissolution. Donc le parti n'est pas du tout prêt. Ils vont être tout aussi bousculés que les autres.
Il a perdu ses derniers soutiens à ce moment-là.
C'est-à-dire, il y a un noyau, il y a un cœur macroniste avec M. Lecornu, avec quelques personnes qui l'entourent, probablement les gens de l'Élysée, M. Soler, M. Roger Petit, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais il réussit l'exploit, M. Macron, de nommer comme Premier ministre l'un des derniers de ce dernier carré. C'est ça qui est très étonnant, qui explique à mon avis la situation de M. Lecornu aujourd'hui.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Qu'est-ce que le macronisme ? Est-il juste déclinant ou carrément déjà mort et enterré depuis la dissolution de 2024 ? Ce sont les questions qu'on se pose cet après-midi avec le professeur de droit public Denis Barranger qui a coécrit La dissolution de la Ve République aux éditions Les Petits Matins. Denis, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il disait en 2018 qu'il était le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, d'une effraction parce que la France était malheureuse et inquiète ? Est-ce qu'il a bien analysé les conditions de son avènement au pouvoir ?
Est-ce que lui, comme personne, est le fruit de la brutalité de l'histoire ? Je pense pas. C'est plutôt un gâté de la vie à bien des égards, même s'il s'est trouvé un grand-père cheminot, qui est assez pratique dans l'existence. Au total, c'est pas un malheureux de ce monde. C'est un bon élève de la République, quelqu'un qui a bien travaillé, bien réussi, particulièrement et spécialement brillant, qui est repéré par les gens des élites, Monsieur Alain Minc, Monsieur Attali, qui font de lui...
C'est un produit du système, quand même.
C'est largement un produit. Largement. Mais la question, c'est de quel système ? C'est en réalité, c'est pas véritablement les narcs classiques, type, si vous voulez, Fabius Juppé. C'est quelqu'un qui passe par la banque Rothschild, qui a une perspective de Startup Nation, etc. En réalité, il n'est pas si classique que ça, dans la perspective.
Vous dites que les premières victoires du macronisme s'expliquent par le vide laissé par la débâcle de l'ancien système des partis, mais il y avait quand même un programme politique très pro-européen, très pro-entrepreneurial en 2017. Ce sont des sujets qui, pourtant, sont clivants. Il y avait une part de risque pris par Emmanuel Macron dans son programme de 2017.
Il y avait une part de risque parce que c'était... pas évident que ça allait convaincre les Français. Regardez ce qu'a fait Fillon. On dit que Fillon, c'est l'histoire des costumes, etc. Mmh. C'est l'histoire qui a enchaîné son échec. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que d'un autre côté, à mon avis, l'échec de M. Fillon, c'est aussi l'échec d'un mix dans lequel vous avez du conservatisme social et du libéralisme économique. Et ça marche pas avec l'électorat, même s'il n'y avait pas eu les costumes et le canard enchaîné. Quand Macron, il réussit son coup. Pourquoi ? Je sais pas. Je pense qu'il y a une part de charme personnel. Tout le monde lui reconnaît un grand talent, un grand charme personnel. Ça joue.
Mais vous dites justement que ce qui a été difficile au macronisme à ses débuts, c'est de fédérer autour d'intérêts sociaux. Pour quelle raison ?
Alors, il a réussi à convaincre un certain nombre de gens différents de le soutenir. Ça, c'est certainement vrai. Il a été l'homme de la situation pour plein de gens à différents endroits. Mais après, de l'autre côté, je pense que l'échec du macronisme, c'est le fait qu'il n'y a pas cette fédération d'intérêts sociaux, de groupes différents qui ont fait, le peuple de gauche, la France socialiste, etc. Il n'y a pas eu ça avec lui, et je pense que maintenant, il le paye, il est enfermé aussi dans un précaré social. Les gens qui le défendent, c'est limité. Les macronistes, c'est quoi ? C'est 20-25% des Français.
Ce qui est incroyable avec Macron, c'est quand même qu'il a réussi à faire exploser le champ politique traditionnel, droite-gauche.
Il a bien joué. Je ne sais pas si lui l'a fait exploser, c'est difficile à dire parce qu'un seul homme ne suffirait pas à la faire. Il a bien joué le moment de l'explosion, il a compris. Si vous voulez, en tennis à Roland-Garros, on dirait qu'il a vu l'angle pour le passing. Il a vu l'angle pour le passing, il a très bien joué, admirablement.
Mais sans, on a l'impression quand vous parlez de lui que... C'est une sorte de génie de l'instant, de stratège, mais pas une vision de long terme.
Il a, si vous voulez, moi j'ai eu le malheur ou le bonheur, parce que ça fait partie de mon métier qui est un peu masochiste, de lire les livres d'hommes politiques. Moi j'ai lu Révolution. Il y a des idées, il y a plus d'idées que dans la plupart des livres d'hommes politiques. Il y a un certain projet et des trucs qui sont là, comme vous avez dit, assez néolibéral, il trompe pas son monde. Après, il n'y a quand même pas une grande doctrine macroniste. Je pense que si le macronisme ne restera pas, c'est parce qu'il ne colle pas avec ce qu'on a appelé les familles spirituelles ou politiques de la France. Ça ne colle pas. Mmh. À mon avis, le monde d'avant va revenir...
Tel qu'il était.
Non, ça, je ne crois pas. Non,
il ne va pas revenir tel qu'il était, donc on pourra...
Vous n'allez pas faire renaître LR, qui sont à 4,77%. Vous n'allez pas faire renaître le Parti Socialiste qui a atteint son étiage. Très probablement, je pense qu'un des... Si je peux continuer une seconde, un des buts politiques de Macron, c'était de faire échapper la France aux extrêmes.
Et
je
pense que...
Il a fait l'inverse.
Non, attendez, moi je me rappelle de l'entre-deux-tours. Je discute avec un sondeur à la sortie d'un studio. Le sondeur nous dit, écoutez, au deuxième tour, ça va être Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon. Une partie de la France ne voulait pas ça. Macron a été la personne qui a réussi à éviter les extrêmes à la France, si c'est ça qu'on veut. Donc il a réussi ça. Il va très probablement maintenant il y a des chances qu'il soit la personne qui aura été avant le RN. Ça, oui, ça c'est malheureusement...
C'est très paradoxal.
C'est très paradoxal, mais je pense que c'est lié. Je suis pas psychologue, je suis pas non plus un biographe de Macron. Je sais pas tout sur lui. Et après tout, sa psychologie m'intéresse pas spécialement. Moi, je suis constitutionnaliste, je m'intéresse aux institutions. Je pense que il a pensé que à lui seul, il allait faire barrage au RN. À lui seul, pas ses ministres qui l'engueulaient tout le temps en disant vous êtes trop mauvais sur cette question-là, pas ses députés auxquels il s'intéressait pas beaucoup, lui. Et une des explications de la dissolution, c'est qu'il est possible. Moi, j'appelle ça règlement de compte à OK Corral. Il se disait moi Bardella, moi je vais gagner. On fait une dissolution. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il a cru ça.
Lui, il n'aime pas qu'on rappelle ses penchants macronistes. Quand on le fait, il boude. Non, non, je ne boude pas, juste je ris quand c'est drôle. Là, c'est pas drôle, s'exclamait-il la dernière fois qu'on l'avait vanné sur le sujet. C'est pourquoi je ne remettrai pas une pièce dans la machine,
mais c'est
lui.
C'est entièrement faux. J'ai été macroniste comme plein de gens.
Oula,
en votant.
Je n'attendais pas une confession de révélation.
On peut isoler cette phrase, s'il vous plaît.
Non, pas du tout. En votant contre quelqu'un.
Ah, très bien.
Oui, mais du coup, comme plein de gens. Pas dire être macroniste.
Bah, ça fait partie de la blague, Manon. Un peu de second degré. Allons-y.
Quentin, dites-nous plutôt comment les gens dans la rue voit le macronisme.
Je marche avec mon micro France Inter au bout du bras, un micro qui semble greffé comme une extension de ma personne. Je rencontre cette jeune femme.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Manon.
On a déjà une Manon dans l'émission.
Ah.
Comment on fait ?
Bah, on en rajoute une deuxième, on en a jamais assez.
Si elles se mettent à rire fort ensemble, on fait sauter la fréquence, je vous préviens.
Mais il est odieux.
Mais alors, ça va pas, Quentin.
Que pense-t-elle, Manon, de notre mot du jour ?
Le macronisme. Qu'est-ce qu'on en pense du macronisme ? J'ai voté Macron, je pense. En plus, c'était ma première, c'est la première fois que je votais, j'avais voté Macron. Parce que je trouvais que c'était, sur le papier, ça donnait envie, dans le sens où c'était quelque chose assez, entre les deux, il n'y avait pas trop de parti pris. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça veut tout un petit peu rien dire.
Ouais.
Voilà, c'est quelque chose d'assez vague, encore même pour moi, le macronisme, quoi.
Oui, on en est tous là, c'est flou. Si elle devait retenir une image de ce qui restera le premier président pour lequel elle a voté.
Une image, moi, c'est par rapport surtout au Covid, lorsqu'il nous a confinés. Voilà.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, exactement.
Plus loin, un petit rire pour terminer. Plus loin, j'arrête ces deux étudiants en Hippocagne qui scannent le QR code d'un vélo vert fluo en libre service.
Le macronisme.
Alors.
Bah, ouais. C'est les deux derniers mandats, quoi, en gros, globalement.
Bah, c'est ça.
Oui, quand il n'y a plus Macron, il n'y a plus de macronisme, quoi.
Alors, c'est une bonne question, pourquoi pas ?
Ah oui, ouais, c'est vrai que Gabriel Attal pourrait faire du macronisme, hein, franchement.
Je creuse un peu et ils m'apprennent qu'ils se sont intéressés au macronisme. Ouais. T'as fait un court-métrage sur Macron ?
Ouais, c'était plutôt comique, hein, mais c'était...
C'était quoi ?
Je sais pas si je veux vraiment dire le scénario, c'est pour France Inter.
Allez, vas-y, essaye.
C'est un détective privé qui doit empêcher qu'une vidéo un peu olé-olé de Macron tourne sur les réseaux. Oh, et
puis... C'est quoi la vidéo olé-olé ?
La vidéo olé-olé ? Non, mais
c'est... Voilà. C'est avec Brigitte ?
C'est avec Brigitte. C'est peut-être aussi en lien avec le dossier que les États-Unis ont ouvert. On trouvait ça drôle que les États-Unis ouvrent une enquête sur Brigitte pour simplement savoir, pour avoir des preuves, là, pour savoir si c'était un homme.
Le macronisme aura aussi porté sa part d'ombre, 10 ans où complotisme et emballement numérique se sont mêlés jusqu'à atteindre la première dame. L'affaire Brigitte Macron reste révélateur d'une époque où la rumeur court toujours plus vite que la vérité. Tiens, j'arrête ce monsieur avec son stylo et son calepin en train de prendre des notes à côté de son camion.
Bonjour.
Vous avez l'air sympa, vous.
Bah oui, je suis toujours.
C'est quoi votre prénom ?
Gérald.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis commercial. Je vends du déménagement. Moi, je vais effectuer des devis chez les gens qui souhaitent déménager.
Alors, que pense-t-il de notre sujet du jour ?
Le macronisme, je veux bien le déménager. Je veux bien le déménager, même lui faire un bon prix pour qu'il s'en aille rapidement.
C'est ce qui va rester, vous pensez, d'Emmanuel Macron ? C'est ce qui reste déjà ?
Ouais, je pense que ça va être ça qui va rester. Même si on a été super bien aidé pendant la période Covid, qu'il a quand même géré pour les petites entreprises, etc. Mais je pense que c'est surtout là ce qui va rester.
Ouais, il y a quand même une sacrée fatigue ambiante qui se sent quand on aborde ce sujet dans la rue. Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Cyril.
On a déjà un Cyril dans l'émission.
Ah oui. Est-ce que c'est l'émission avec, comment il s'appelle ? À 17h.
Mathieu Noël ?
Mathieu Noël, c'est ça.
Ah, c'est ça, ouais.
C'est Cyril La Carrière, non ?
Oh.
C'est ça. C'est vous, Cyril, ou non ?
Ah non, c'est pas moi.
Non, c'est pas vous, ouais.
Je suis beaucoup plus jeune.
Sympa que lui.
Ah, plus sympa aussi. Allez, dernier avis sur
Le macronisme. Un barbarisme ? Un mot de l'époque ?
Bah, en tout cas, c'est un mot qui s'est installé dans les conversations, sans être dans le dictionnaire.
C'est vrai.
Vous y avez cru ?
Oui, personnellement, oui. Oui. Ce côté un peu jeune premier, échappé du peloton, c'était pas mal, ça. Ah, et puis, un sacré bordel, ouais.
Peut-être qu'il aurait peut-être pas dû être réélu.
Et comme Emmanuel Macron, c'est l'homme du « en même temps », je demande à Cyril une image positive et en même temps une image négative du président.
Donc une image positive, entrer dans la bataille, quoi, hein, se retrousser les manches au sens propre comme au figuré, il l'a fait. Hein, il a tapé dedans. L'image négative, c'est compliqué, je sais, ouais, une déception, non que, alors après, est-ce que c'est vraiment sa faute? C'est compliqué, hein, votre question. Hein. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est pas l'air du temps, là, ce qui se passe?
Le macronisme, est-ce que c'est de sa faute? Un peu.
Ouais, non, mais moi je pense la polarisation un peu des extrêmes, quoi. Mais est-ce que c'est réellement de sa faute? Ou est-ce que c'est pas l'air du temps?
Je cherchais s'il restait des macronistes, il en reste. Et donc il reste un macroniste qui avait cru à cette promesse d'une France en marche, qui aura souvent donné l'impression d'une marche un peu forcée.
Je vous trouve un peu dur quand d'ambiance, c'est pas étonnant, vous êtes le pire d'entre nous, donc oui, ça m'étonne pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer, Denis Barger, de se projeter loin dans le temps? Souvent, très longtemps après leur règne, entre guillemets, on se met à aimer à nouveau nos anciens présidents. On voit leur cote de popularité qui remonte. Est-ce qu'à ce moment-là, le macronisme pourrait pas exister dans 10 ans? Est-ce qu'on regarderait pas ça différemment? Après tout, c'est quand même un président qui a traversé des moments quand même assez incroyablement difficiles. La pandémie, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine. C'est quand même des moments compliqués pour un président.
Mais absolument, c'est-à-dire que je trouve que son bilan est aussi positif, la gestion du Covid, l'Ukraine, comme l'a dit une des personnes interviewées, le quoi qu'il en coûte, ça a rendu bien des services.
Ça a sauvé bien
des petites entreprises et des personnes en difficulté en France. Je le répète, sa gestion économique, il a des éléments pour la défendre, la baisse du chômage, etc., etc. Il y avait une idée derrière ça tout de même, à mon avis, qu'il partageait avec Alexis Kohler, c'était de renforcer l'image de la France, de consolider la France qui avait un problème de robustesse. Le truc absolument incroyable, c'est que toutes ces idées-là qui peuvent être des idées bonnes, ça se termine avec 1 000 milliards de dettes en plus, un déficit à 6,2%, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on imaginait qu'il incarne, si vous voulez. C'est ça qui est très curieux.
Moi, je plaisantais un peu. Il reste forcément des macronistes dans la rue qu'on peut croiser, avec qui on peut discuter. Mais où vont voter ces gens-là? Qu'est-ce qui va rester aux macronistes pour s'exprimer aux élections, aux futures échéances électorales?
C'est une très bonne question, comme disaient les hommes politiques autrefois. C'est une très bonne question. Je pense que ce que cherche à capter M. Attal, les gens du socle commun, M. Attal... Édouard Philippe, il se démarque.
Édouard Philippe,
il a une politique, il a une gestion de son rapport à Macron assez compliquée. Pour le moment, il se démarque, il le critique, il veut pas beaucoup soutenir M. Lecornu. M. Philippe est un petit peu difficile à lire dans sa stratégie, ou en tout cas dans sa tactique actuelle. En tout cas, est-ce qu'il y a un capital du macronisme que les gens vont essayer de capter pour eux? Je trouve que c'est pas si évident. Je pense qu'il y a un capital de l'anti-macronisme, le RN joue là-dessus, LFI joue là-dessus. Les gens qui essayent de se rapprocher du macronisme, comme par exemple Olivier Faure, pourraient se brûler les ailes, parce qu'on pourra leur dire après, bah, t'as été un des derniers soutiens quand le navire était en train de couler. Quoi.
Mais ce que représentait le macronisme au début, c'était aussi une forme de jeunesse, une politique incarnée par des personnalités plus jeunes qu'on avait rarement vues en France, faut quand même le dire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'une certaine forme de relève, c'est Jordan Bardella par exemple, là-dessus?
J'aurais du mal à décrypter ce que représente Jordan Bardella dans la politique française actuelle. Mais pour en revenir à Macron, ça se termine avec deux premiers ministres de 73 ans.
Oui.
Donc côté jeune, c'était pas si évident que ça. Il a lancé des gens comme Gabriel Attal, etc. Il a utilisé l'énergie de gens comme Édouard Philippe. À la fin, il s'est retrouvé avec le monde d'avant. Et lui-même, son problème maintenant, c'est qu'il est encore très jeune. Et qu'il a encore une longue carrière dont on ne sait pas ce qu'elle va être faite, mais lui, il y pense. Vous savez, il a dit aux jeunes macronistes l'été dernier, je vais avoir besoin de vous, on ne sait pas pour faire quoi, mais il est évident, on ne cesse jamais d'être un homme politique, il est évident qu'il pense à son avenir à lui.
2032, attends. Est-ce que vous pensez qu'il y pense déjà?
Je ne suis pas dans son cerveau, j'ai déjà assez du mien, mais non, j'en sais rien, je n'ai jamais vu... Imaginez que M. Hollande y pense, que voilà, tout homme politique ou toute femme politique pense qu'il va être élu ou qu'il va se relancer. J'en connais pas qu'il soit pas comme ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Certains mouvements politiques sont plus éphémères que d'autres. Le lacarisme, par exemple, qui se proposait d'être le premier mouvement ni de gauche, ni de gauche. Il n'aura duré que 5 minutes après un baba chartreuse au bistrot Blériot, Cyril étant monté sur la table pour haranguer la foule, qui ce midi-là se réduisait à moi et Jérôme Kerviel, qui déjeunait seul dans son coin. Malgré ses belles promesses, notamment interdiction des restaurants véganes et réouverture des boucheries chevalines, le projet lacariste s'était heurté au mur du statu quo. Et Cyril à la porte du resto, car il était bourré. C'est justement en hommage, si vous voulez, au lacarisme que nous allons jouer aujourd'hui avec tous ces mouvements en isme qui ont fait pchit. Jouons au Zoom Zoom Test. Le principe est très simple. Je vous lis, ou selon mes envies, vous décris la quatrième de couverture d'un livre écrit par des politiques français et vous devez deviner le nom du courant de pensée qu'ils incarnent, sachant que Denis, évidemment, ne joue pas parce qu'il va tout de suite, il les a tous lus. Donc, Denis, vous restez silencieux. Top premier.
Attends, il faut dire de gauche, de droite.
Il faut rien du tout. Vous me donnez le nom du courant en isme. Vous me donnez le nom. Courant, même pas le nom. Même pas le nom, si vous voulez, de la personne. Je veux le nom du courant.
Il y a ABC ou pas?
Mais non, il n'y a pas ABC, Manon. Vous allez bien voir. Mais évidemment, il y a ABC. C'est un QCM.
Vous êtes dans un état.
Mais enfin, Manon, c'est le 650e quiz.
Vous m'agressez alors que je pose une question.
Ça va.
Pas du tout, Manon. Faites très attention parce que je peux vous enlever des points. Et là, ça sera de l'agression. Premier courant de pensée, première quatrième de coup, Valéchamp.
Je quitte le studio.
Le récit d'une vie politique hors norme. Une analyse implacable de la situation. Son regard sur le monde qui nous entoure. Un projet pour replacer la France en tête. Un fil rouge, la liberté. Une obligation, faire. Enfin. Vous aurez bien reconnu, mais vous taisez. On entend les propositions. Parce qu'on entend les propositions, vous le savez.
Ah non, mais vas-y, je le fais.
Vous aurez bien évidemment reconnu le style caractéristique de...
François Fillon.
Du séguinisme, Philippe Séguin.
Fillonisme.
Du juppéisme.
Fillonisme. Juppé.
Ou du fillonisme, effectivement. Vous êtes sûr de vous,
quand même? Sûr, à certains.
Vous misez tout
là-dessus. Le livre s'appelait Faire.
C'est une bonne réponse. Oui, les amis, en régie, Cyril Lacarrière s'est signé trois fois pendant que je vous lisais cette quatrième de couve. Ça aurait dû être pour vous un indice, Manon. Il s'agissait évidemment du livre Coup de poing de François Fillon, Faire, paru en 2015 chez Albin Michel, best-seller mondial traduit en une langue, le russe. Un livre qui voyait juste en parlant de carrière politique hors norme, puisqu'effectivement, être aux portes de l'Elysée pour finir VRP de Vladimir Poutine, c'est assez hors norme. Le meilleur d'entre nous, et nous ne méritons pas, déclara Cyril durant son allocution lors du cocktail de dissolution des fillonistes pontélois combalusiens.
F-A-I-R-E ou oui, faire Manon. F-E-R ? Ok.
Non, faire, le verbe.
Oui, voilà.
Pour aller faire, quoi.
Oui, faire aller.
Faire aller.
Voilà. En tout cas, on reste en selle. Le rodéo du gai savoir continue avec la quatrième de couve de cet ouvrage paru, lui, en 2002. Ce livre 2002. Marquera la première étape de son grand retour. Réparti en cinq grandes parties, le socialisme, l'Europe, la mondialisation, la politique économique, l'État, l'ouvrage est à la fois prétexte à une analyse serrée des mutations en cours et une projection dans l'avenir. Le ton est volontairement libre, libéré en tout cas des prudences habituelles de la personnalité politique en activité qui s'exprime sur les affaires du monde et libéré aussi de toutes les langues de bois. Ce livre, c'est évidemment la flamme et la cendre, typique de la période rose du valsisme, du strauss-kahnisme ou du huchonisme.
Ah, je dirais strauss-kahn.
Strauss-kahnisme, ouais.
C'est une bonne réponse.
L'ai dit avant.
C'est une bonne réponse de Quentin qui l'a dit avant. Non, non, je suis désolé.
C'est moi, commencé à le dire, il m'a interrompu comme d'habitude. Mansplaining.
Bien sûr.
Vous n'allez pas brandir cette pancarte à chaque fois, ça n'a pas marché.
Le huchonisme n'ayant jamais existé, même dans la tête de Jean-Paul Huchon lui-même, contrairement au valsisme qui lui a existé dans la tête de Manuel Valls, par élimination, vous pouviez deviner que ce livre, La flamme et la cendre, était le porte-étendard du strauss-kahnisme, courant de pensée qui s'est écrasé en 2011 sur la moquette souillée du Sofitel de Manhattan. Mais la quatrième de couve.
La quatrième de couve, s'il vous plaît.
Tout à fait, c'est ce que je l'évoquais. La quatrième de couve avait rétrospectivement raison de saluer le courage d'un responsable politique libéré de toutes les langues de bois, ça c'est sûr. Et restons à New York, on y est si bien. Cyril Flûte. Pour la prochaine question, je vais vous régaler puisque vous êtes amateur de belles lettres avec le résumé de Éloge des voleurs de feu. Cet éloge s'imposa il y a bien longtemps, j'avais 16 ans, et toi, mon frère, 18. Quand nous marchions dans les rues de New York, à l'heure où le soleil couchant éclaboussait les tours, tu scrutais le paysage, les visages blafards à 6 heures, la fumée qui jaillissait partout, luttant contre les ombres.
Je
compris que, hors de ce quotidien aveugle et sourd, il te fallait des mots, comme des ballons de couleur, pour toucher au cœur. Cette invitation au voyage digne d'un clochard céleste est représentative de... du lemérisme, Bruno Le Maire, du rocardisme, ce bon vieux Michel Rocard, ou du villepinisme, hein, le grand Dominique de Villepin, qui a été notre invité d'ailleurs.
Villepin.
Pour vous,
c'est A.
De Villepin.
Le Maire,
Bruno Le Maire, ça ressemble. Ouais. Ça manque de cul. Bonne réponse de Manon Marini, évidemment. Il est beau, il est bronzé, il est poète, et il serait presque de gauche. J'en ai les poils, I have hairs, comme on dit à New York. Si vous êtes fort quiche en poésie, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Top à l'émotion avec cette ultime quatrième de cours. Qui parle et pourquoi? D'où parle-t-il? De quels intérêts dépendent-ils? Qui dirige vraiment la France et avec quels objectifs? Démonter les rouages d'une machine à broyer les peuples, c'est le premier pas nécessaire d'un vrai changement. Et j'ose le dire, d'une révolution. De la vraie révolution pacifique et démocratique que notre pays est en droit d'attendre. Dans ces lignes bouleversantes et révolutionnaires, vous aurez évidemment reconnu immédiatement les fondations du lepénisme, du poutouisme, Philippe Poutou, ou du mélenchonisme.
Mélenchonisme.
Je vais sur Le Pen, moi. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça marche dans les deux, un peu.
Ça marche dans les deux. La révolution, Enfin, Quentin, c'est une bonne réponse,
Mais calmez-vous.
Mais Manon, vous n'avez pas lu Pour que vive la France, Manon, mais je me demande encore si vous êtes vraiment française. Mais Pour que vive la France, le livre référence de Marine Le Pen paru en 2012, où on la voit courir hilar sur une plage, pieds nus, les bras en croix. Aux dernières nouvelles, il en restait quelques exemplaires sur une étagère du rayon Tout doit disparaître de la librairie Le Passage à Alençon. Défaite de la littérature et victoire de Quentin. Bravo, Quentin.
C'est bien, ils peuvent partir avec le livre de Le Pen et le CD de Quentin.
Voilà. Enfin,
ça balance.
Une belle journée shopping.
Exactement.
Le macronisme aura-t-il été un feu de paille ou bien vivra-t-il au-delà du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ? On le souhaite surtout pour Quentin, vivement très touché à l'idée que le macronisme puisse mourir. Souvenez-vous ce cri du cœur.
89% des Français estiment que le macronisme est d'ores et déjà mort. Mort.
Il est mort.
Le professeur de droit public et co-auteur de la dissolution.
C'est toujours pas drôle.
C'est toujours aussi excellent. En régie, tout le monde était
fou. Je sais, parce que c'est eux qui ont dû vous le souffler, vous oubliez tout.
Mais c'est quand même marrant.
C'est quand même fou, quoi. C'est toujours pas drôle.
Chacun jugera. Quentin.
Ah oui, bah,
chacun
je pense que jugera. Les gens sont hilars dans leur voiture. Les gens s'arrêtent sur le périph'.
Ils le passent juste pour que tu sois comme ça, Quentin. C'est
juste pour que vous soyez énervé.
Et je serai toujours comme ça.
C'est fait, oui, ça, on peut vous faire confiance. Le professeur de droit public et co-auteur de la dissolution de la 5ème République que j'ai ici en main, Denis Barranger, est avec nous pour décrypter ce qu'est le macronisme. Denis, vous dites que la capacité du macronisme à balayer les formes mortes de la politique nationale a été remarquable. Ça, c'est quand même ce qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron.
Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que il a voulu dépasser des moments de la vie qui avaient vieilli, comme dit le philosophe, des trucs qui ne marchaient plus. Le socialisme de gouvernement, qui était du gouvernement mais qui n'était plus du socialisme. La droite républicaine, dont on se demandait pourquoi... elle était devenue républicaine. Enfin, ça n'allait plus et les électeurs ne soutenaient plus ces mouvements-là. Et je le répète, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y avait aussi le fait qu'une partie des Français ne voulait pas des extrêmes et que Macron a su incarner ça. On critique maintenant sa fragilité doctrinale, le fait qu'il n'y a pas de courant politique, etc., etc. Mais ça, c'est aussi une force en politique. Il a su faire un melting pot, faire un cocktail à l'intérieur duquel il y avait des trucs qui convenaient aux gens. Et d'autre part, je le redis aussi, il a été capable de gouverner. C'est pas à la portée de tout le monde de gouverner la 7ème puissance mondiale dans des périodes de crise. Il a su le faire. Je pense que, on pourra peut-être en discuter, son énorme problème, c'est un problème de légitimité de rapport aux Français. Et ça, il a pas du tout su le résoudre. Pas du tout.
Un problème de légitimité, il a été élu deux fois démocratiquement.
Non, je dis pas du tout qu'il a pas de titre à être président. Je dis pas qu'il doit démissionner. C'est pas du tout mon propos. Mais en réalité, la 5ème, ça suppose un président qui a un rapport assez direct avec les Français, qui exprime la nation, comme a su le faire en son temps le général de Gaulle ou Mitterrand, par exemple. Je pense pas que Macron ait su faire ça. Justement, il a eu le réflexe que vous venez d'avoir là. Il s'est dit, j'ai été élu, c'est bon.
C'est bon,
je peux faire ce qui me plaît.
Je suis légitime.
Voilà, c'est comme dans la chanson de Sheila, je peux faire ce que
je
c'est Sheila d'ailleurs, je suis plus sûr. Je peux gouverner. Or, en réalité, un président, il a besoin d'un parti, d'une majorité à l'Assemblée nationale et derrière de Français qui le soutiennent.
Et d'une base militante.
Probablement aussi. D'une base
il
n'a
pas du tout travaillé à ça.
Il a voulu. Alors ça, c'est l'idée qui est déjà dans son discours d'Amiens quand il fonde En Marche, c'est que je ne veux pas faire un parti, je veux faire un mouvement. Je vais être en machin. Mais ça, en réalité, je pense qu'il n'a pas travaillé ça. Il n'a pas non plus travaillé le terrain local. Il n'a pas de base locale. Très, très peu. Voilà. Donc, il a effectivement maintenant... Mais de toute façon, quoi qu'il ait eu, s'il avait eu un parti, maintenant, il ne l'aurait plus.
Son engagement dans l'Europe, est-ce que ce combat-là a pu le desservir auprès des Français?
Alors avant tout, ça, je pense que c'était un combat sincère. S'il y a quelque chose qu'il est de façon sincère et authentique, c'est pro-européen. Il a vu assez tôt la nécessité de réorganiser l'Europe. Il a vu assez tôt la mort cérébrale de l'OTAN. On ne peut pas lui refuser un certain discernement de ce point de vue-là. Non, ça, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas porteur, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Ça l'est coulé, mais je pense que ça ne l'a pas nécessairement servi. Mais au moins, on peut dire qu'il n'a pas fait partie de cette flopée d'hommes politiques qui tapent sur l'Europe pour se remonter eux-mêmes. Je ne pense pas que ça lui ait rendu un grand service politique. Mais voilà.
Est-ce que la faiblesse du macronisme tient aussi aux députés, pour la plupart novices, qui ont remporté les législatives de 2017?
Ouais, ils étaient l'incarnation de ça. Moi, je les ai vus, je les ai un petit peu pratiqués. C'était des gens de très bonne qualité, venus vraiment de la France qui va bien. C'est l'incarnation de la France qui va bien, des profs de médecine, des gens des start-up, des gens très diplômés, fort sympathiques au demeurant, mais qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que le Parlement. Et Macron leur a même dit, mais c'est pas un problème, soyez des amateurs. Ben ça, oui.
Ils l'ont été.
Quoi, oui, ça, comme on dit dans l'historique, qu'est-ce qu'ils ont pris? Voilà, absolument. Et ça, c'était tout de même un souci, mais en vérité, il avait pas... Lui, il se pensait complètement indépendamment du Parlement. Moi, je me souviens d'un sénateur qui me dit un jour, il sait même pas qu'on existe. Il n'y avait pas de pire job que d'être sénateur macroniste.
ça ne l'intéressait pas, mais si les Français ne l'intéressent pas, et si le Parlement ne l'intéresse pas, au bout d'un moment...
Qui l'intéresse
voilà.
On termine cette question, c'est l'objet de votre livre. Est-ce que la Ve République pourra survivre à Emmanuel Macron?
Oui, elle peut. Elle est en grosse crise. C'est-à-dire, à mon avis, pour les gens qui font mon métier, les constitutionnalistes, ce qui restera de la période Macron, c'est une sorte de nouvelle configuration qui n'est pas la période avec un président qui a une majorité qui le soutient, qui n'est pas une cohabitation avec un Premier ministre et une majorité qui le soutient contre le président, qui est une sorte de troisième moment où il n'y a pas de majorité du tout. Il y a trois groupes qui se tapent dessus et un président qui prétend gouverner mais qui en réalité ne le peut pas. Ça, c'est un truc qui me frappe énormément quand M. Macron, le 27 décembre dernier, reçoit les agriculteurs sur la dermatose nodulaire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il peut leur promettre quand le président dit qu'il va y avoir un projet de loi sur ceci ? Il ne peut pas. Donc ça va rester, malheureusement. Le nom de Macron va être associé à une crise de la cinquième qui va être difficile à surmonter.
Vous écoutez France Inter, et comme l'ont montré les dernières audiences, vous n'êtes pas le seul.
Ou la seule ?
Ou la seule,
oui.
Ou les seuls. Quand
ou
les seuls. Je vais vous dire, si vous voulez présenter Zoom Zoom Zen, vous pouvez venir à ma place.
Non, j'ai essayé de renverser votre scooter.
Vous pouvez réussir le coup qu'a raté Cyril la fois où il a voulu me tuer en scooter, en embauchant je ne sais qui pour m'écraser en fourgonnette. C'est raté, je suis encore vivant.
Ouais.
Réussissez votre coup et vous pourrez prononcer les mots que vous souhaitez. Pour l'instant, c'est moi qui les donne. La pièce jointe de Manon Marconi.
Merci. Un groupe aujourd'hui, pas aussi pop que les Spice Girls, pas aussi sexy que les To Be Free, pas aussi connu que U2. Je vous parle aujourd'hui des Mormons de Macron. Alors, aucun rapport évidemment avec les adeptes de l'Église des Saints des derniers jours, mais c'est le surnom donné à un cercle très restreint de proches conseillers du président de la République, Emmanuel Macron, sa garde rapprochée qu'il a accompagnée dans sa conquête du pouvoir en 2017. Ils sont 8, Julien de Normandie, Sylvain Faure, Sylbette Ndiaye, Stéphane Séjourné, Jean-Marie Girier, Benjamin Griveaux, Arnaud Leroy et Ismaël Emelien. Ils sont tous de la même génération que Macron, plutôt à gauche. Certains préparaient d'ailleurs la campagne de Dominique Strauss-Kahn avant qu'il ne soit accusé de viol. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien secrétaire du Parti Socialiste, dit d'eux qu'ils ont rapidement constitué un groupe clanique dans la mouvance de ce qui s'était passé autour de DSK et qu'ils ont évolué vers Emmanuel Macron qui était le seul à leurs yeux capable de construire le renouveau et surtout leur propre réussite. Ce groupe a été présenté comme le commando de la start-up politique. C'était même le titre de leur groupe Telegram Commando 2017, un groupe capable d'agir vite dans la discrétion et l'efficacité pour bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui la Macronie. Un cercle soudé, brillant et, dit-on, arrogant. Ils arrivent de Bercy, de Sciences Po, des grandes campagnes politiques, mais aucun n'a jamais été élu ni diplômé de l'ENA. Ils sont ignorés et pris de haut par l'entourage de François Hollande, mais eux ont un objectif, dépoussiérer la politique à coups de méthodes de start-up et d'anglicisme. Selon leurs détracteurs, ce fonctionnement avait plusieurs limites. Alors déjà, un pouvoir très concentré, une communication verrouillée, un univers fermé, et surtout déconnecté des logiques traditionnelles de la politique. Et même à l'intérieur, il y avait des tensions notamment entre ces mormons et l'entourage de la première dame Brigitte Macron, ce qui a constitué leur éloignement progressif du président. Mais ils ont réussi à tenir leur pari le 14 mai 2017, quand Emmanuel Macron est investi président de la République. Ce sont eux qui posent fièrement sur les marches de l'Élysée. Quasiment 10 ans se sont écoulés depuis et les choses ont bien changé. Stéphane Séjourné est le seul encore dans le jeu politique, ex-ministre aujourd'hui à Bruxelles, vice-président exécutif de la Commission européenne. Certains sont partis dans le privé, Griveaux s'est fait cancel pour une dick pic, mais plus aucun n'est aux commandes auprès du président.
Merci Manon. Denis Barranger, ces mormons là, ils ont disparu. Maintenant, le plus ancien conseiller, c'est Bruno Roger Petit, officiellement conseiller mémoire du président. Qu'est-ce que ça raconte d'Emmanuel Macron, ces mormons?
Ça raconte le côté start-up, c'est-à-dire la capacité à faire vite et bien, être une task force. Ça raconte le fait qu'il n'avait personne autour de lui, à part des inconnus, même des inconnus brillants. Ça raconte le fait qu'en réalité, le profil des macronistes, comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment des énarques, c'est souvent des HEC, Kennedy School of Government, comme Madame, je crois, de Montchalin et autres. C'est un fait très particulier, parce qu'en vérité, c'est des gens qui vont rentrer au sommet de l'État, au sommet de la machinerie de l'État, mais qui veulent la casser, qui en réalité sont contre la haute administration, parlent du deep state. Donc c'est un profil très particulier, pas nécessairement affine, pas nécessairement en phase avec la machinerie étatique et la politique française.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Le couradisme. Ce courant politique ouvertement complotiste qui affirme que la gastronomie italienne n'existe pas et que Lourdes est une ville sympa pour une escapade week-end fera un jour l'objet d'une analyse dans cette émission. Analyse qui débutera forcément par une étude de sens du mot courade, qui selon le pays où on se trouve signifie pas la même chose, puisqu'en bigourdan, courade signifie passage, mais qu'en grec, on l'a vu, courade signifie merde. Oh. Vous aurez un jour un droit de réponse c'est là-dessus, mais c'est pas le jour. En attendant, Pierre, merci de nous résumer le macronisme en une minute chrono.
Ah, le couradisme, c'est donc une forme de et en même temps. Le macronisme, lui, c'est un peu plus compliqué. Au-delà de l'adage de François Mitterrand qui disait que le centre c'est être ni de gauche ni de gauche, le macronisme a lui voulu être et de droite et de gauche. Problème d'après notre invité Denis Barranger, professeur de droit public et auteur d'un essai sur notre vie institutionnelle depuis la dissolution de 2024, le macronisme n'existe pas. Il y a Macron mais pas de macronisme car il n'a pas réussi à fédérer sociologiquement autour de son projet. De fait, il n'a ni héritier ni organisé le passage de relais. En fait, Emmanuel Macron a bénéficié de l'effondrement des partis de gouvernement, Fillon à cause de ses costumes, Hollande à cause de l'inversion de la courbe du chômage qui a tardé à venir, il a pu émerger en négatif dans une vie politique qui a peur du vide. Néanmoins, Denis Barranger reconnaît des réussites au président de la République et une part de risque pris lors de sa campagne très pro-européenne en 2017. La trajectoire du macronisme ressemble, d'après notre invité, à un arc d'un ovni entre 2015-2016 aux deux élections de 2017 et 2022 à cette fin de règne qui commence le 9 juin 2024 avec l'annonce de la dissolution. Emmanuel Macron a sabordé son propre mouvement, incapable de remporter les législatives. Voilà le macronisme, qu'il existe ou pas, finira dans le prochain quiz de Mathieu Noël consacré aux ismes qui n'auront pas survécu à leur fondateur.
Ce quiz a déjà eu lieu.
Oui, mais le prochain.
Ah, le prochain, d'accord, oui.
Parce que vous, j'imagine qu'on en reparlera.
Qu'on le recyclera ?
Oui.
Je vais vous dire une chose, ça arrive. C'est très possible. C'est tout à fait possible. Et c'est maintenant le moment de l'émission que notre invité Denis Barranger attend. Il est venu, même strictement pour ça, puisqu'il est fan, il est fan de François Rollin qui revient à sa manière sur les émissions de la semaine. Bonjour François Rollin.
Bonjour cher Mathieu. Bon ben nous voilà bientôt à la mi-saison et je ne voudrais pour rien au monde être celui qui critique, qui dénigre et qui blâme sans jamais proposer de solution. Je ne veux plus me contenter de vous dire que vous êtes la honte du service public de radio-télévision. Il faut encore que j'essaye de comprendre et de dire pourquoi. C'est dans cet esprit que j'ai scruté à la loupe la semaine qui vient de s'écouler. À l'issue de cette expertise, j'ai des pistes, même si je n'ai pas encore formellement identifié l'origine du mal, mais j'ai des pistes. En fait, une piste pour être précis. Penchons-nous. Allez-y, penchez-vous. Lundi, le sujet était plutôt pas mal. La force de réassurance, la guerre en Ukraine, le cessez-le-feu, et l'invité Nicolas Richoux a été habile et formidable. Manon a été spirituelle et pertinente, Quentin a été sagace et piquant, Pierre a été superbe et jubilatoire, aucun problème côté technique, programmation musicale parfaite. Je cherche l'erreur. Mardi, le sujet était chouette. Pétrole, le pétrole du Venezuela, la capture de Maduro. Et l'invité, Mathieu Ozano, a été épatant.
C'est vrai.
Manon a été clairvoyante et subtile. Quentin a été pétillant et marrant. Pierre a été ingénieux et flamboyant. Aucun problème côté technique, programmation musicale parfaite. Je cherche toujours, est-ce Mathieu, je cherche toujours.
Oui, ça m'inquiète.
Mercredi, le sujet était joliment pointu. Cortex, percer les secrets de l'intelligence et l'invité Richard Lévy a été talentueux et irréprochable. Manon a été perspicace et enjouée. Quentin a été insolent et malicieux. Pierre a été grandiose et compétent. 10 sur 10 côté technique et côté musique. Je cherche encore et encore, il y a un élément défectueux, mais lequel, Mathieu, lequel ? Je dis, le sujet était passionnant, le mystère Mohamed VI, et l'invité Thierry Oberlé a été royal, pour ne pas dire impérial. En face de lui, Manon a été lumineuse et réjouissante, Quentin a été facétieux et remarquable, Pierre a été impayable et profond, zéro souci technique ou musical. Bonsoir de bonsoir, où se cache la brebis galeuse ? Aujourd'hui, le sujet était excellent, macronisme, y a-t-il eu une France macroniste ? L'invité Denis Barranger a été prodigieux et pénétrant, Manon a été sublime et éblouissante, Quentin a été étonnant et hilarant, Pierre a été drôle et judicieux, la technique magnifique, la musique sensationnelle. Où est le défaut de la cuirasse ? Je vous le demande, Mathieu, j'enrage. Si ça se trouve, la vérité crève les yeux, si ça se trouve, le coupable est sous mon nez et je ne le vois pas. Mais je ne lâche rien, j'y arriverai vendredi prochain, possiblement. Allez, salut.
Possiblement, petite ordure de François Rollin. Merci beaucoup, François. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci beaucoup, Denis Barranger, de nous avoir expliqué le macronisme, même s'il n'existe que moyennement. Je rappelle votre dernier livre, coécrit avec Olivier Beau, La dissolution de la Ve République. C'est aux éditions Les Petits Matins. Ça nous aide à savoir ce qui va nous attendre aussi dans les mois qui viennent. Zoom Zoom Zen.